Nous allons donc partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le registre « La vie de l'Esprit » dont nous allons faire une lecture dans Romains au chapitre 8. Romains 8 nous parle de ce qui se passe lorsqu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il choisit la vie de l'Esprit. Et Romains 8, verset 5, nous lirons jusqu'au verset 9. Romains chapitre 8, verset 5. Le titre de ma prédication ce matin est très important. « Votre esprit est-il en bonne santé ?» Et nous allons voir si notre esprit est en bonne santé. Romains chapitre 8, verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Nous allons faire une autre lecture dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 5, il y a une exhortation de l'apôtre en conclusion de tout cet enseignement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je répète. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tous conscients qu'il n'y a aucune église parfaite. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malgré le fait qu'il n'y ait aucune église parfaite, Dieu veut susciter des chrétiens spirituels par lesquels ses projets pourront aboutir. Il y a des projets de Dieu. Ces projets de Dieu ne pourront s'accomplir qu'avec des chrétiens spirituels. L'œuvre de Christ, lisez Romains, le peu qu'on a lu, nous le fait vite comprendre, c'est par l'Esprit de Dieu qui touche notre esprit que les choses spirituelles peuvent se déverser. Et on comprend très vite qu'il ne faut pas chercher à revivre les expériences qu'on a faites dans le passé, même si elles étaient extraordinaires, on ne peut pas copier ce qui s'est fait dans le passé. De la même manière qu'on ne peut pas copier ou imiter ce qui se fait à l'étranger. Il y a énormément d'églises où on veut tellement voir l'œuvre de Dieu se faire qu'on est prêt à imiter ce qui se passe dans tel ou tel pays, dans telle ou telle église. Nous devons vivre par la révélation du Saint-Esprit. Et nous comprendrons à l'issue de cette réunion qu'il est important que notre esprit à nous soit en bonne santé. Si notre esprit n'est pas en bonne santé, comment l'œuvre de Dieu pourra-t-elle se faire? C'est vrai que nous sommes dans des temps difficiles. Je ne vous apprends rien. C'est vrai que nous sommes dans des temps compliqués, confus, et que si nous nous arrêtons aux choses négatives, et beaucoup le font, beaucoup abandonneront la foi. S'il est prophétisé que beaucoup abandonneront la foi, c'est parce que les gens regardent aux choses négatives. Quand les gens abandonnent, dans n'importe quel domaine, c'est qu'ils ne voient que le négatif. Et beaucoup de chrétiens se font piéger. Et je crois que nous, les chrétiens, qui voulons être fidèles et utiles, nous ne devons pas baisser les bras, mais nous ressaisir et faire en sorte que la volonté de Dieu se fasse. Le seul chemin, c'est Christ. Il n'y a pas de chemin à chercher, de méthode à avoir. Le seul chemin, c'est le Seigneur. Il n'y a pas de méthode. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous voulons être soucieux de laisser le Saint-Esprit nous communiquer sa pensée. Est-ce que c'est important pour vous? Ah oui. Est-ce que nous sommes tous convaincus et conscients que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire? Et nous pouvons faire plein de choses pour le Seigneur, mais si ce n'est pas lui qui nous les demande, ça va être de l'activité, de l'activisme, de l'épuisement, ça va être pénible. Alors que si c'est le Saint-Esprit qui agit, si c'est le Saint-Esprit qui nous le demande, ça sera les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous savez, je disais hier à tous ces jeunes qui veulent prendre le baptême, c'est pas difficile d'amener les gens à faire certaines choses. Baptiser d'eau quelqu'un, est-ce que c'est difficile? Dire à quelqu'un, vous êtes prêt? Voilà, je te baptise demain. Baptiser quelqu'un, baptiser d'eau, c'est pas une grosse affaire. Vous me comprenez? Amener les gens à prendre le pain et le vin d'une manière même presque sérieuse, c'est pas difficile à faire. C'est très simple à faire. Il y a des choses comme ça, on peut amener quelqu'un, tiens, quelqu'un joue bien du piano, ben ça serait bien que tu trouves cette activité dans l'église. Voilà. Il y a des choses qui sont très faciles à faire. Corriger même certaines habitudes. Est-ce que dans le monde, certaines personnes n'arrivent pas à changer certaines habitudes? Ben bien sûr. Mais amener les gens à la communion avec le Saint-Esprit pour qu'ils fassent l'œuvre de Dieu, laissez-moi vous dire que c'est une autre affaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est facile de faire faire certaines choses. Et M. Olé hier nous enseignait bien la différence entre le baptême d'eau et le baptême en Christ, qui est un baptême qui vient d'un renoncement, d'une repentance, d'une conversion, et qui fait que nous sommes en Christ. C'est pour ça que je vous dis que faire certaines choses dans une église, même faire des projets, c'est une affaire facile. N'importe quel jeune converti, au bout d'un an, pourrait proposer des projets dans une église et dire, tiens, on fait ça. Tiens, mais à la banque où je travaille, on fait ça. On fait telle friperie. On pourrait peut-être le faire dans l'église. Mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de la pensée de Christ. Au niveau collectif, voyez, pour l'avenir du local, on a besoin de la pensée de Christ. Pour continuer à aider le Niger, ça représente quand même des grosses sommes. On a besoin de faire les choses d'une manière intelligente et cohérente. C'est quand même votre argent, c'est l'argent de l'Église et c'est surtout l'argent du Seigneur. On a besoin de cohésion et de bon sens. Mais amener les gens à cette communion avec le Saint-Esprit, parce qu'il est quand même dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Alors, je ne veux pas expliquer ça aujourd'hui. Je l'expliquerai une autre fois. Ce que je veux ce matin, ce que je veux, oui, je veux, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu, je veux que nous comprenions bien que ce que je vais vous apporter, je ne vais pas le développer. Par contre, je vous demande peut-être de noter les références et de méditer sur tous ces textes. Il y en a une quinzaine, j'aimerais qu'on les lise ensemble, mais je voudrais que vous soyez bien sûr, que vous soyez sérieux et vous édifiez vous-même. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Alors, je vais vous donner des versets qui vont vous permettre de le faire. C'est très sérieux. L'œuvre de Dieu, c'est sérieux. Le salut des âmes, c'est sérieux. L'éternité, c'est sérieux. La vôtre, celle de nos rats, mais celle de tout le monde. C'est sérieux que nous nous occupions de l'éternité des gens. Alors la Bible nous demande de nous appliquer à conserver sain notre corps, notre âme et notre esprit. Cette semaine, j'ai vu aux informations un homme qui, à 100 ans, fait du vélo. 30 km par jour. Il a commencé le vélo très jeune, à 70 ans. Et il a dit, je veux m'entretenir mon corps, je mange de tout. Un homme qui paraissait équilibré, et c'est vrai qu'il prend soin de son corps. Il a certainement raison, espérons qu'il prendra aussi soin de son âme avant de partir. Mais nous avons là l'image d'un homme qui entretient son corps. Alors, il faut s'exercer à la... Moi, je pense que l'exercice corporel est une bonne chose, très bonne chose. Bien sûr qu'en comparaison à l'exercice de piété, c'est rien du tout. Vous savez à quoi je fais allusion. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais c'est quand même utile. Bien sûr, c'est peu de choses en comparaison des choses éternelles. C'est évident. Mais moi, je crois qu'il faut s'occuper de son corps. Et qu'il y a des gens, dès que le docteur leur dit « Faites-ci, vite, vite », ils s'en occupent. On ne va pas parler du corps ce matin, quoique nous sommes dans un monde où le culte du corps prend de plus en plus de place. Et ça, ce n'est pas non plus une bonne chose. Ça, c'est un des travers. Il faut s'occuper de son âme. Même les pécheurs vont voir des psychologues parce qu'ils ont des problèmes avec leurs émotions, avec leurs sentiments, avec leur caractère, avec leur volonté. Tout ça, c'est important de prendre soin de son âme. Mais la Bible fait bien la différence entre l'âme et l'esprit. On y reviendra prochainement. Les pécheurs qui n'ont pas accepté Jésus-Christ ont une âme. Ils ont une âme, leur esprit est mort, mais leur âme est vivante. Avant notre conversion, nous avions des émotions, des sentiments, de l'affectivité, etc. Ça fait partie de notre âme. Nous ne parlerons pas de l'âme ce matin, nous parlerons de l'esprit. Nous devons nous occuper de son esprit. À quoi reconnaît-on un chrétien qui est en bonne santé? Est-ce qu'il parle en langue? Oui, mais ce n'est pas ça la bonne santé. On va le voir. Ça fait partie de la prière et du combat spirituel et de la façon de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est une façon de combattre en quelque part. Mais L'esprit de l'homme doit être en bonne santé. Alors, notez bien ces quelques versets, car je vous l'explique. Dieu est en communion avec nous par notre esprit. Et l'œuvre de Dieu se fait par l'esprit. Le petit e, c'est-à-dire par l'esprit de l'homme qui est envahi par l'esprit de Dieu. Le moyen de Dieu, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre âme, même si Dieu va utiliser notre corps, bien sûr, parce que si je dois aller guérir quelqu'un dans telle ville, il faut bien que mon corps y aille. Il faut bien que ma volonté soit d'accord. Mais il faut surtout que ce soit le Saint-Esprit qui ait reçu la pensée de ce que je dois faire. Alors, Dieu nous parle de l'esprit. Alors, on va voir quelques textes. Quel est l'esprit qui est agréable à Dieu ? Ésaïe 66. Alors, notez ces lectures et priez. Priez dans votre cœur, dans votre culte personnel. Dites au Seigneur, donne-moi, regardez bien, Ésaïe 62, verset 2. Et 66, qu'est-ce que j'ai dit ? Je l'ai fait exprès pour voir si vous écoutiez. Ésaïe 66, verset 2. C'est important. Vous savez, ce qu'on va voir ce matin, ça peut énormément faire progresser la vie spirituelle de l'Église. Nous ne nous en rendons pas compte. Si nous étions tous sérieux avec ce que nous allons lire ce matin, et en tenir compte comme un sportif, voyez, comme un homme qui est malade dans son corps et qui se met à faire du sport, de la rééducation, de la kiné, pour que son corps soit en bonne santé, si nous faisions la même chose spirituellement, je peux vous dire qu'on ferait des progrès. La fin du verset 2. « Voici sur qui je porterai mes regards. » Vous y êtes ? Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Voilà l'esprit qui est agréable à Dieu, un esprit abattu. Dans le sens, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le découragement, attention. On ne parle pas de découragement là. Un esprit abattu, c'est un esprit qui a beaucoup de respect pour les choses de Dieu. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire par Ésaïe. Voici sur qui je porterai mes regards, celui qui a la crainte de l'Éternel, celui qui craint ma parole. Ce matin, il y a des gens parmi nous, ils ont le respect de la parole. Ils n'arracheront rien, ils n'ajouteront rien, et il y en a qui discuteront la parole, comme des fois les jeunes le font. Ah, est-ce qu'on peut se marier avec un inconverti ? Mais oui, mais moi je l'amènerai. Ainsi de suite, voyez ? Quand on craint la parole, on n'a plus ce genre de discussion. On est respectueux de la parole de Dieu. Celui qui tremble à ma parole. Voilà un esprit agréable à Dieu. Notre esprit devrait être continuellement dans un état de crainte respectueuse. C'est pas écrit, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Approche-toi, c'est Ecclésiaste 4:17. Approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Voilà, je sers Dieu. C'est le sacrifice des insensés, c'est ça. Je sers Dieu, je fais mon truc dans l'église, j'ai mon service, après tout, je fais ça, qu'on vienne pas m'embêter, je fais ça. Mais après, la crainte de Dieu, ce n'est pas un problème. C'est ça le sacrifice des insensés. Je sers Dieu, mais je n'écoute pas Dieu. Et un esprit en bonne santé, il a ce profond respect de la parole de Dieu. On est loin de la confiance en soi-même. On est dans le respect profond des choses de Dieu. Psaume 51, verset 19. C'est des textes qui vous font méditer. Je pourrais prêcher trois quarts d'heure sur chaque verset. Ce n'est pas le but. Psaume 51, verset 19. Notez-les, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est enregistré. Vous pourrez vous procurer le CD, soit à la publication, soit par Internet. Mais quand même, je pense que pour les cultes qui arrivent, notez ces choses. Psaume 51, verset 19. C'est dans un moment de repentance où un homme qui a longtemps attendu avant de régler son problème de péché. Mais là, il va être confronté à Dieu. Dieu va permettre une circonstance où il va être confronté à son péché. Il a l'intelligence de le régler. Alors, on va lire le verset qui nous intéresse. C'est un psaume de David après son adultère. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Cet homme est en train de nous expliquer que ce qui plaît à Dieu, c'est que lorsqu'on a péché, on doit ressentir quelque chose dans son cœur. Un chrétien, écoutez bien, qui ne ressent rien dans son cœur après avoir péché, a vraiment un problème. Est-ce que vous comprenez ? Chrétien qui dit, mais non, mais écoute, mais qu'est-ce que tu me prends la tête avec ça ? Ouais, j'ai menti, mais tu ne vas pas me faire tout un plat. Là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a un cœur brisé. On a affaire à quelqu'un qui est inconscient. Le Seigneur dit que ce qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé et un cœur contrit. Quelle grâce quand on reconnaît un péché dans sa vie. Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est pas une bénédiction, ça? C'est ça, un cœur contrit. Oh, Seigneur, je suis malheureux. Ça m'a brisé le cœur. J'ai fait ça. Oh, j'ai parlé mal à ma femme. Est-ce que c'est un péché d'être dur envers sa femme? Ou envers son mari? Est-ce que c'est un péché? Eh bien, vous voyez, oh, c'est ton problème. Votre esprit n'est pas en bonne santé si, après avoir commis un péché, votre cœur n'est pas brisé. Et ça, c'est important de le savoir. Je crois qu'il faut que nous ayons un enseignement très pratique. Parce que la vie de l'esprit, il faut que ça nous amène à quelque chose de très pratique. On n'est pas dans l'euphorie psychique. On est dans quelque chose de très pratique. Et ces chrétiens qui ne sont pas conscients de leurs péchés ont certainement un esprit en très mauvaise santé. Un chrétien va manquer le culte et il va dire « Oh, écoute, on va pas... » Moi, je trouve que ça commence à être inquiétant. Si on a manqué, moi je crois qu'on dit vraiment, Seigneur, je te demande pardon pour ma négligence ce matin. J'aurais dû aller dans la maison du Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, un esprit agréable à Dieu, c'est un esprit contrit. Croyez-moi, c'est inquiétant quand un chrétien se fiche pas mal du péché qu'il vient de commettre. On va lire Ésaïe 5, où on est, psaume 34 alors. Réfléchissez à ces choses, c'est sérieux. C'est sérieux, l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec des choses gentillettes. Je discutais l'autre jour avec une chrétienne, je ne comprends pas, elle me dit, dans l'église, ce responsable, pourtant il est gentil, mais l'église elle est dans tous les états. Mais j'ai dit à cette personne, mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec la gentillesse. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses importantes. Voyez, voilà, c'est ça l'âme. L'âme, elle peut être gentille. On n'a pas, bien sûr, c'est le mieux, c'est bien d'être gentil. Mais l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec des gens gentils. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des gens spirituels. Mais il est certain que celui qui est spirituel, on va le voir, il est gentil, c'est clair. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Gardez la page et venez avec moi dans Ésaïe 57. Ésaïe 57, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je les mets ensemble. Ésaïe 57, verset 15. Regardez avec moi. Il y a la bénédiction qui suit, qui est expliquée en même temps. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, alors regardez bien, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voyez, l'esprit contrit, l'esprit humilié, l'esprit abattu. Ce qui nous prouve que quand on est chrétien, il est parfois possible de devoir repasser par la repentance. Des fois on entend de dire non, la repentance c'est pour les païens. Bien sûr que c'est pour les païens, car sans la repentance, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais la repentance, c'est aussi pour les chrétiens qui ont commis un péché. Les lettres aux églises nous le rappellent, à presque à chaque fin de lettre, à part l'église de Philadelphie, Dieu dit, voilà, repens-toi. Lorsqu'on a commis un péché, on doit se repentir. Voilà, Dieu veut que nous ayons un esprit humble. C'est un bel état d'esprit d'être capable de reconnaître une erreur et ça nous permet surtout d'être vigilants. C'est pour ça que les humbles reçoivent la grâce de Dieu. C'est important. Comment pouvons-nous nous éprouver nous-mêmes? Comment pouvons-nous nous examiner nous-mêmes quand nous prenons le pain et le vin si nous ne sommes pas dans un esprit d'humilité? C'est important. Il y a des gens qui prennent le pain et le vin avec de l'amertume, avec du ressentiment, avec de la haine, la colère, et ils ne vont pas régler ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi d'avoir un esprit humble. Et Dieu veut que nous nous efforcions. Dieu veut que nous nous efforcions pour ces choses. Dieu veut que nous nous efforcions de plus pécher, mais le péché devrait nous attrister. Dans une église, nous ne devrions accepter aucune forme de péché. Est-ce que vous comprenez? Et là, on est arrivé à un stade aujourd'hui où on accepte que tout, je ne vais pas citer, mais on accepte énormément de choses. Et ça ne peut pas préparer la bénédiction de Dieu dans une église. Voilà, dès que quelqu'un a cet esprit brisé, contrit, humilié, ce qu'on vient de lire, eh bien la personne, elle est sensible. Voilà. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont sensibles. Des, voilà, peut-être je t'ai bousculé, je te demande pardon. Il y a des gens qui se moquent de tout. Il y a des gens qui ont un esprit sensible. Et ça, gardez-le si vous l'avez. Je suis avec l'homme contrit et humilié, on vient de lire, afin de ranimer les esprits humiliés. Un esprit humble, un esprit humilié, c'est un chrétien, il ne regarde pas à lui-même. Il ne regarde pas à ses faiblesses. Il regarde au Seigneur. Car l'humilité, écoutez bien cela, ne concerne pas que la relation de l'homme avec Dieu. L'humilité concerne également la relation de l'homme avec l'homme. Il n'y a pas que la relation avec Dieu. Il y a des gens, ils sont très humbles avec Dieu. Alors, quand ils prient, ils ont une humilité extraordinaire. Mais est-ce que l'humilité concerne que notre relation avec Dieu? Est-ce qu'elle ne concerne pas également notre relation avec le prochain? Vous avouez que c'est inquiétant quand quelqu'un fait de très très belles prières, d'une humilité, « Oh Seigneur, combien je me tiens devant toi, toute humble, etc. 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 » Et puis après, quand on voit certains propos avec les voisins, on sent qu'il y a un drôle de décalage. La véritable humilité n'est pas que verticale, elle est automatiquement horizontale. C'est quelque chose de bien comprendre. Quand on dédaigne personne, quand on aime les gens comme ils sont, quand on décide de les aimer comme ils sont bien, ben, tant mieux, eh ben, ils sont comme ils sont, eh ben, tant pis, c'est comme ça, ils changent, c'est bien, ils ne changent pas, ben, tant pis, ils se convertissent, eh ben, c'est bien, ils ne se convertissent pas, bon, c'est grave. Mais on les aime comme ils sont. Cette personne ne fait pas des progrès depuis 10 ans? Ah, c'est vrai, nous on aimerait. Vous n'aimeriez pas que tous les gens fassent des progrès? Vous n'aimeriez pas que votre pasteur fasse des progrès? Mais il y a des gens, ils ne font pas de progrès. Vous les voyez 10 ans après, alors où t'en es avec Dieu? Ils s'inquiétaient, ils s'inquiètent toujours. Ils étaient aigres, 10 ans après, vous les trouvez toujours aigres. C'est beau quand vous voyez quelqu'un qui s'inquiétait. Il s'inquiétait pour sa vie, pour son avenir, et vous le voyez 5 ans après. Ah non, maintenant non, je m'inquiète plus pour les gourmanchés. Est-ce qu'ils ont à manger? Vous voyez, on voit les gens, on les voit, vous discutez avec quelqu'un, 2 ans, 3 ans après, que c'est triste, en tous les cas pour un pasteur, que c'est humiliant de voir des gens qui ne font pas de progrès. Moi, ça serait une grosse affaire si le jour où je pars d'ici, j'observais qu'il n'y a eu aucun progrès dans l'Église. Je ne le dirais peut-être pas, mais ça serait quelque chose qui me ferait beaucoup de mal. Parce que je crois que dans l'Église du Seigneur Jésus, on doit faire des progrès. Quelqu'un qui est humble, il fera des progrès. Et pas que des progrès avec Dieu. Des progrès également avec les autres. Quand quelqu'un est humble devant Dieu, quand quelqu'un est humble avec ses frères, il prouve qu'il est en bonne santé spirituel. Que chacun, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi celui des autres. L'humilité, c'est bien la preuve qu'elle n'est pas que verticale, elle est également horizontale. Ne le cherchez pas, mais marquez-le. Matthieu 5, verset 3 dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ce verset a été interprété de 1000 façons. De 1000 façons. À tel point que dans certaines églises, même dans notre pays, on s'est occupé que de faire du social auprès des pauvres. Pour essayer de gagner de mettre Dieu de son côté. Et on a même, moi j'ai entendu ça, je l'ai entendu, que dans les églises, eh bien, ceux qui étaient bénis, c'était les pauvres, que les riches, ils étaient pas bénis. Mais quelle imbécilité! Le problème, il n'est pas dans l'argent, la possession ou pas. Le problème, il est pauvre en esprit. Quelqu'un qui est pauvre, un milliardaire peut être pauvre en esprit. C'est quelqu'un qui dépend de Dieu. La pauvreté en esprit, c'est quelqu'un qui dit, voilà, quel que soit mon argent, ma fortune, mon CAC 40 qui va bien, ou mes sous que j'ai de côté, tout ça c'est une chose, mais Seigneur, une chose est certaine, je veux dépendre de toi. Les pauvres en esprit, ce sont des gens qui ne s'appuient pas sur leur force, ils s'appuient sur Dieu. Tous les jours, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. C'est ça être pauvre en esprit. Seigneur, tu vois, c'est vrai. J'ai peut-être une grosse BMW, que si j'avais un accident, elle me protégerait. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce sur la route. Protège-moi. Moi, j'ai entendu des gens qui disent, moi, je ne risque rien avec la bagnole que j'ai. Je ne risque rien, même si j'ai un accident, c'est prouvé que je ne risque rien. Vous voyez, quand un chrétien dit ça, je ne sais pas si c'est de la pauvreté spirituelle ou de l'imbécilité. Moi, je crois que quelle que soit votre voiture, Seigneur, protège-moi. J'ai jamais eu d'accident, Seigneur, mais... Garde-moi, s'il te plaît, Seigneur. Heureux les pauvres en esprit. Voyez, c'est ça, je donne des exemples, ils sont ce qu'ils sont. Mais ça vous permet de comprendre que quelqu'un heureux qui sont pauvres en esprit, il est en bonne santé. Je dépends de toi, Seigneur. Je suis en bonne santé physique, mais Seigneur, c'est toi qui me tiens debout. Je suis en mauvaise santé physique, mais c'est toi qui me tiens debout, Seigneur. Je dépends de toi. Les pauvres en esprit, il y a une version anglaise, je crois, qui dit « heureux les mendiants hein ». Heureux les mendiants. Un mendiant, c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre pour vivre. Vous voyez, c'est une bonne image du fait qu'on dépende de Dieu. Est-ce que vous dépendez de Dieu? Est-ce que vraiment vous pouvez dire « oui, vraiment je dépends de lui » Eh bien, c'est ça la bonne santé spirituelle. Alors, j'aimerais dire quelque chose en parlant d'humilité. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force. C'est écrit ? L'Esprit nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Voilà, ça, c'est un esprit en bonne santé. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais la timidité n'a rien à voir avec l'humilité. Il y a des chrétiens qui me disent « Ah, mais moi, vous savez, je suis humble, je dis rien, je suis timide. » Ne confondez pas la timidité avec l'humilité. L'humilité, c'est un oubli de soi. C'est-à-dire, voilà, je m'oublie moi-même et je me porte vers les autres. Tandis que la timidité, c'est être esclave de ses faiblesses. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est une chose, dit voilà, moi je vais être humble, je vais m'occuper des autres, je veux faire ce que j'ai à faire, je veux dépendre de Dieu. Voilà. Et ne confondez pas avec la timidité. Parce que la timidité, je suis esclave de mes faiblesses. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est pour ça que nous devons prendre la victoire au niveau de la prière. Une dame me disait un jour, ah, mais moi je n'ose pas prier à haute voix devant mon mari. Vous voyez, ça, bon, on n'a pas jugé. Mais je crois qu'elle doit prendre la victoire, elle ne doit pas être esclave de cette faiblesse. On a tous des faiblesses et des manquements, oui ou non? On a tous, dans un domaine ou dans un autre, des choses qui nous préoccupent. Mais voyez, je crois que Dieu nous a donné un esprit de force. Seigneur, tu me demandes de prier? Quelqu'un me dit, moi quand quelqu'un vient à la maison, j'ose pas rendre grâce devant les inconvertis. Est-ce que ce n'est pas une occasion bénie de rendre grâce à table? On n'a pas prié un mois, le repas se refroidirait, mais au moins, Seigneur, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ce n'est pas une occasion bénie? C'est une occasion bénie. Une occasion bénie, vous voyez, il faut bien faire attention, parce que les chrétiens, ils mélangent, c'est la preuve qu'ils ne séparent pas ce qui est de l'âme et de l'esprit. Et la Bible dit que la parole est une épée qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit, ce qui est psychique de ce qui est spirituel. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons de la crainte devant lui, mais que nous ayons du courage pour aller faire ce qu'il nous demande. Voilà un esprit en bonne santé. Je suis brisé devant Dieu, abattu devant mon péché pour rester en communion avec Dieu, mais par contre, je reçois du courage pour faire ce qu'il me demande. Voyez, la crainte devant Dieu, le courage pour aller faire ce qu'il demande. C'est ça, un esprit de force. Un esprit de force devant les attaques de Satan. Il en a des ruses, Satan hein? Si on va plus loin dans la vie de l'esprit, on va voir que le diable, il en a des ruses. Même au niveau de l'âme. Je ne parle pas des choses perverses qui sont des pièges tellement flagrants. On parlera certainement des pièges de l'âme. Croyez-moi, et il y en a même dans une église pour les gens qui cherchent, vous voyez, surtout des méthodes humaines. Un esprit d'amour. Parce qu'un esprit d'amour, de force, de sagesse. Un esprit d'amour. Pourquoi? Parce que pour s'occuper des gens, eh bien, il faut les aimer. Ce n'est pas facile d'aimer toujours les gens. Ce n'est pas vrai? Alice, c'est pas vrai? Est-ce que c'est facile d'aimer les gens? Il faut recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas avec notre amour qu'on va aimer les gens. Il ne faut pas dire, voilà, oh je vais aimer, je vais les aimer, ils ne sont pas aimables, mais je vais les aimer. Il y a des gens comme ça, ils se résignent, vous voyez, mais ils le font avec leur âme. Ils le font, comme les païens, ils le font avec leur âme. L'Esprit de Dieu, Dieu nous a donné un esprit d'amour. C'est cet amour de Dieu. Demandez-le. Peut-être que vous en êtes pauvre de cet amour. Est-ce que Dieu peut vous donner de l'amour? Demandez-le. Dans la communion avec le Saint-Esprit, vous recevrez son amour. Il l'a donné. C'est quelque chose qu'il faut prendre. Pas quelque chose qu'il faut mériter. C'est quelque chose qu'il faut prendre. Et un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse parce qu'on a plein de situations à régler. Et on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Pour une situation difficile, on ne va pas donner à tous le même conseil. Moi, je vois des fois, ils disent, ah, mais si je te dis ça, moi j'ai vécu ça, alors il te faut faire comme ça. Ce n'est pas ça, la sagesse. La sagesse, c'est recevoir la révélation du Seigneur pour savoir comment aider la personne. Galates 6, verset 1er, c'est dans la discipline dans l'Église. Est-ce qu'il en faut de la discipline dans l'Église? Ah oui, il en faut. Il y a des églises, on ne veut plus l'entendre parler. De perdre les gens. Si on leur dit la vérité, ils vont partir. De toute façon, ils sont déjà partis, même s'ils sont là. Puis qu'ils se sont déjà perdus. C'est vrai ou c'est pas vrai? On rit, mais c'est vrai. Ils sont déjà partis. Il est déjà rétrograde. Est-ce que les rétrogrades sont tous en dehors de l'église? Ben non. C'est pour ça. Alors on cherche à garder des gens qui sont déjà partis spirituellement et on va attrister le Saint-Esprit qui est l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire. Galates 6 explique par rapport aux fautes dans l'église, au péché. Le péché des païens, c'est une chose, mais le péché des chrétiens, c'est aux pasteurs et aux anciens à s'en occuper. Galates 6, verset 1er, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, alors, redressez-le avec un esprit de douceur. Bon, le contexte, vous le savez, c'est la discipline. La douceur est un des fruits de l'esprit. Vous le savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, etc. La douceur. La force, voyez, la force, la fermeté, la discipline, la maîtrise de soi n'empêche pas d'être sensible. Voyez, on a parlé, Dieu nous a donné un esprit de force. Mais en même temps, il nous demande dans ce texte de redresser avec un esprit de douceur. Est-ce que vous me suivez? Voyez, d'un côté, j'ai de la force face à l'ennemi, mais face à des frères qui ont péché, il me faut de la douceur. Vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. Il faut faire attention. Dans une église, il ne faut pas attraper les gens n'importe comment parce qu'ils se sont mal comportés, parce qu'ils ont commis un péché. C'est vrai qu'après, la discipline, ça peut aller jusqu'à la fermeté et même à la mise en discipline de quelqu'un pour qu'il soit conscient qu'il est perdu, qu'il est dans le péché. Mais ça, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on a un esprit de force et en même temps, un chrétien doit avoir un esprit de douceur pour régler les problèmes. Les gens, il ne faut pas les abattre quand ils viennent de commettre un péché. Il faut les relever. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Voyez, un esprit de force, un esprit de douceur. Il ne faut pas que nous soyons déséquilibrés. Il y a des gens, ils traitent tout à l'emporte-pièce, c'est comme ça, le Seigneur a dit, soyez des hommes, alors moi je vais lui expliquer comment ça se passe dans l'église. Comme ce chrétien un jour qui a rétrogradé et qui a fini très mal et qui m'avait dit, moi vous savez, je suis comme Dieu, je dis les choses une fois et après je ne les dis plus. Et puis je dis, heureusement que Dieu n'est pas pareil. Parce qu'on en serait si Dieu était comme vous. Mais lui, dans sa tête, il croyait que Dieu était d'une fermeté, d'une dureté, d'une rigidité. Heureusement que Dieu, la patience de Dieu est notre salut. Enfin, bon, ça, c'est des exemples. Mais ces gens-là, voyez, ils montrent un esprit dur. Et un esprit dur est un esprit en mauvaise santé. Comme un esprit, comme je le disais tout à l'heure, qui est léger avec son péché, son propre péché, est un chrétien qui est en mauvaise santé. Il faut l'accepter. Si vous traitez le péché à la légère, acceptez de dire oui, je suis en mauvaise santé. Seigneur, fais-moi grâce, je me repens et vous inquiétez pas, le Seigneur, il saura vous aider. Romains 12, verset 11, ne le cherchez pas, soyez fervent d'esprit. Voyez, la ferveur, le zèle, est-ce qu'il faut avoir du zèle? Oui. De la ferveur. Mais tout ça, ça peut être charnel. La Bible parle d'un zèle charnel, humain, diabolique. On peut avoir du zèle pour Dieu et faire des choses, mais ça peut être humain. Ça peut être charnel. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que Dieu veut que nous fassions. On peut avoir du zèle pour des choses qui nous intéressent. Ah ça m'intéresse, alors je vais être zélé. Mais cette ferveur, bien sûr, ne dure pas parce que c'est par intérêt. Mais il y a une ferveur spirituel. Et je crois que ça vaut la peine d'être fervent d'esprit. On parlait hier avec mon épouse de certaines personnes qui, par rapport aux enfants, tout ça, ne sont pas fidèles. C'est dommage d'avoir un groupe d'enfants. Après, on est tout le temps en train de chercher quelqu'un pour pallier, etc. Je crois qu'un chrétien, il doit être fervent d'esprit, s'est engagé, dit voilà, je me suis engagé, je le fais pour le Seigneur, c'est important, je m'y attache, je m'applique. Bien sûr qu'après, il y a la ferveur charnelle qui, elle, fait plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont tout le temps en haut, tout le temps en bas, découragés, quand ça va bien, alléluia, tout merveilleux, c'est merveilleux. Quand il y a une épreuve, ils remettent tout en question, voilà, c'est charnel. C'est charnel. Quelqu'un qui est dans l'esprit, c'est quelqu'un de linéaire, malgré les épreuves, il est constant dans son progrès avec Dieu. Proverbe 17, verset 27. On peut le lire celui-là ? Non, puisque... Proverbe 17. Voilà, j'espère que vous notez ces textes et ils vous permettront dans cette semaine peut-être de vous corriger et de dire voilà, cette affaire-là, il me faut de la douceur. Je parle durement à mon conjoint, je parle durement à mes enfants. Parfois, c'est nécessaire d'être ferme. Mais attention, attention. Corrigeons-nous. Proverbe 17, verset 27. Oui, c'est ça, verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit, vous m'aidez pas beaucoup, hein. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Voyez, d'un côté, c'est ça qui est extraordinaire. D'un côté, notre esprit doit être fervent, soyez fervent d'esprit, et d'un autre, nous voyons que l'autre doit être calme. Fervent pour servir le Seigneur, calme pour régler les problèmes. Parce que vous savez, régler les problèmes dans l'excitation, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans le cadre du foyer, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir que la mayonnaise montait et que... À quoi ça sert ? À rien. Un esprit calme. Un esprit calme, c'est vraiment quelqu'un qui est en bonne santé. D'ailleurs, c'est dans le calme et la confiance que sera votre foi. Voilà à quoi on reconnaît un chrétien qui est en bonne santé. Il nous est dit de Jésus ou même de Jean-Baptiste, Luc 1, 47, son esprit... Non, c'est Marie qui parle. C'est Marie qui exalte le Seigneur. Elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Voyez ? Alors un chrétien doit garder un esprit brisé vis-à-vis de son péché, mais il doit avoir de la joie. Mon esprit se réjouit. Voyez ? Alors vis-à-vis des choses, il faut faire attention, il faut être brisé. Mais vis-à-vis de Dieu, il faut se réjouir. Est-ce que c'est important de se réjouir dans le Seigneur ? Voyez, Marie, mon esprit se réjouit. C'est ça l'équilibre. L'esprit calme, l'esprit fervent, l'esprit brisé, l'esprit contrit, par rapport aux différentes situations. Mais par rapport à Dieu, est-ce que nous ne devons pas nous réjouir dans le Seigneur ? Est-ce que c'est écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ne vous réjouissez pas de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. On a besoin d'être brisé par rapport à notre propre péché, mais on a besoin de se réjouir en Dieu. C'est pour ça que nous avons des cultes d'adoration. Heureux l'homme qui le matin se réveille et qui se réjouit dans le Seigneur. Voilà, c'est important. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous vous réjouissez dans le Seigneur ? Vous voyez cet équilibre ? Il ne faut pas être toujours brisé, il ne faut pas être toujours contrit, il ne faut pas être toujours abattu dans le sens de se remettre en question. Il faut en même temps se réjouir. Et voilà à quoi on reconnaît un chrétien qui a une bonne santé. Son esprit est abattu parce qu'il c'est nécessaire dans une situation, mais de l'autre côté, il est tellement heureux d'avoir Dieu pour sauveur. Le Seigneur doit être le sujet de notre joie. Vous savez, la joie dans le monde, je ne sais pas si vous avez vu, la joie, c'est, on ne l'a pas toujours la joie. Oui ou non ? Mais en Dieu, on peut l'avoir toujours la joie. Et la Bible ne dit pas, jamais il est dit, mais réjouissez-vous de ci, réjouissez-vous de là, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont abandonné ? Parce que quand même, moi je vous assure qu'en tant que pasteur, ça me préoccupe, les rétrogrades, ceux qui abandonnent, ceux qui s'attiédissent, c'est un problème. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ont abandonné la cour ? Bon, parce qu'ils n'ont pas fait de progrès, ils sont restés frustrés, mais je crois qu'ils n'ont pas pris au sérieux certaines paroles de l'Écriture. Quand la Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », le chrétien doit se réjouir en Dieu. Et beaucoup de chrétiens vont chercher la joie ailleurs parce qu'ils n'ont pas appris à la chercher en Dieu. Quand vous chantez des cantiques, est-ce que vous vous réjouissez en Dieu ? Bon. Parce qu'on peut chanter et pas se réjouir, voyez ? Un esprit saint. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, un esprit en bonne santé, c'est un esprit qui se purifie. Je l'ai dit tout à l'heure, béni soit Dieu pour tous les chrétiens qui parlent en langue et que Dieu fasse que tous prophétisent dans l'Église. Est-ce qu'on pourrait tous prophétiser dans l'Église ? Est-ce que c'est biblique ? Oui. Mais ça, c'est une chose. Mais voilà. Quelqu'un qui veut être spirituel, qui veut marcher, qui veut être utile à Dieu. Allons au but. Quelqu'un qui veut être utile à Dieu. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit, mais il faut qu'il sanctifie son esprit. Béni soit Dieu. Je le répète. Oui, il faut parler en langue. Parce que l'on prie, on va peut-être prier pour des gens aux extrémités de la terre dans des situations. Mais ne focalisez pas que sur le parler en langue. Sanctifions également notre esprit. Un chrétien doit vivre dans la pureté. Un chrétien qui ne vit pas dans la pureté est une pierre d'achoppement. Hier soir, j'ai posé quelques questions aux ados et ils ont compris qu'il y a des chrétiens qui rendent un mauvais témoignage. Pourquoi ? Parce qu'ils ne prennent pas au sérieux ces choses. Et ce sont des pierres d'achoppement. Jésus en parle, de ne pas être une pierre d'achoppement. Quelqu'un qui flirte avec les choses de la terre, qui joue avec le péché, il n'a pas un esprit saint. Et l'œuvre de Dieu est freinée. Alors on dit, mais c'est pas grave. Et si c'est grave? Si la Bible nous dit de conserver notre corps, notre âme et notre esprit dans la sainteté, c'est sérieux. Le contexte de ce verset nous parle des souillures de la chair et de l'esprit. Que de choses peuvent souiller notre esprit? La jalousie, est-ce que ça peut souiller un esprit? Vous voyez, il y a le péché, les péchés grossiers, les péchés du corps. Bon, ça, c'est une chose. J'espère que je n'ai pas besoin de vous enseigner là-dessus. Mais il y a la souillure de l'âme. L'amertume, ça vous souille une âme. La rancune, ça vous souille une âme. La dureté, l'orgueil, tout ça, la critique. On peut évaluer une situation. Mais il y a des gens, dès qu'ils parlent, ils critiquent tout le temps les autres. Ils voient la paille, mais ils ne voient pas la poutre. Et tout ça, ce n'est pas un esprit sain. Il faut que nous nous corrigions, savoir quand est-ce qu'il faut parler, savoir quand est-ce qu'il faut se taire. Mais mes frères et sœurs, il est certain que, si, est-ce que vous comprenez ma méditation? Si nous nous appliquons tous à faire en sorte d'avoir un esprit en bonne santé, est-ce que vous vous rendez compte des progrès qu'il y aura dans l'Église? Comment Dieu va bénir l'Église? Nous ne nous rendons pas compte si tous, cette semaine, nous prenions les notes de cette prédication et si nous disions, voilà, ça je vais m'attaquer à cette affaire. C'est vrai que j'ai tendance à critiquer, Seigneur, c'est pas bien, je demande pardon. Et voilà, mais après, soyez là à parler. Si c'est votre problème, si c'est la jalousie, eh bien, réjouissez-vous de ce que les autres ont reçu. Quelqu'un a été béni, eh bien, c'est bien. Merci Seigneur. Quelqu'un a reçu plus que vous, eh bien, c'est bien. Ne soyez pas jaloux, voyez. Que la grâce du Seigneur, Philémon verset 25, que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Voilà, un esprit de grâce. Si vous vous approchez du trône de la grâce, votre esprit sera dans la grâce. Et voilà une église en bonne santé. Elle vit dans la grâce de Dieu. Quel bonheur! Quand un chrétien, il vit dans la grâce de Dieu. Quand un chrétien baigne dans la grâce de Dieu. Il faut que des paroles de grâce sortent de notre bouche. C'est écrit ça dans la Bible? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce. Un esprit de grâce, c'est un esprit qui est en bonne santé. Et quand on discute avec quelqu'un, sérieusement, on le voit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hier, je discutais avec quelqu'un, je vous donne ce petit témoignage. Et la personne me dit, vous savez, monsieur Gou, c'est telle personne qui m'a baptisé il y a 40 ou 50 ans. Je dis, c'est bien. Et depuis ce temps, est-ce que vous avez fait des progrès avec Dieu? Ah, elle me dit, pendant 20 ans, j'ai abandonné le Seigneur. Et puis enfin, vous voyez? Et cette personne se gargarisait d'avoir été baptisée par tel pasteur. Mais quand j'ai discuté avec elle, j'ai vu combien son esprit était en très mauvaise santé. Et c'est notre devoir à nous, les pasteurs, les anciens, et même les frères qui prennent de l'âge, d'apprendre à discerner si l'esprit d'une personne est en bonne ou en mauvaise santé. Que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Un chrétien qui reçoit la grâce, il communique la grâce et il est en bonne santé. Et ailleurs, il est dit, soyez fermes d'un même esprit. Il y a un combat. L'Église, ce n'est pas une compagnie de pécheurs sauvés. L'Église, c'est une armée. On l'a chanté tout à l'heure. « Lève-toi ». Homme de foi, etc. Qu'est-ce que c'est pour vous l'Église? Que des pécheurs sauvés par grâce? Ou des pécheurs sauvés par grâce qui sont rentrés dans un combat spirituel? Comment l'Église pourra-t-elle combattre un bon combat? Pourquoi les gens ne prient pas? Mais parce qu'ils sont en mauvaise santé. Ils n'ont pas envie de prier. Quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle, il mène un combat. C'est écrit, Philippiens 1:27, demeurez ferme dans un même esprit. Il doit y avoir dans l'Église une unité d'esprit. C'est pour ça, je me permets de prolonger le culte de quelques minutes. C'est pour ça que quand une Église vit avec les émotions, que l'affectif, les sentiments, avec le psychisme, ça peut pas marcher. Pourquoi il y a des divisions dans les Églises? Parce que les gens dépendent de leurs émotions, de leurs sentiments, de leur affectif. Vous voyez, ils dépendent que de leur âme. Mais les chrétiens, ils doivent être unis dans l'esprit. On a un combat à mener. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est pas les frères et les sœurs. Et quelqu'un qui est pas spirituel, il le comprend pas. Il est tout le temps pétard contre l'autre, un pétard contre l'autre. Il est en colère contre celui-ci. Il est énervé par l'autre. Il dépend de ses émotions. Et c'est un chrétien en très très mauvaise santé. Il peut paraître très gentil, très 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 sensible. C'est pas de la sensibilité, c'est de la sensiblerie. Et tout ça, ça fait du tort à l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous nous appliquons à méditer ces textes, nous comprendrons que le Dieu veut que nous ayons un esprit en bonne santé. Quand il nous est parlé de ces femmes qui avaient un esprit doux et paisible, est-ce que c'est important pour les femmes qu'elles aient un esprit doux et paisible? Eh oui, parce que nous les maris, nous avons besoin de votre douceur. Vous le savez ça? Parce que vous ne savez pas comment on fonctionne. Nous, on ne sait pas trop bien comment vous fonctionnez. Mais je peux vous dire que dans la Bible, il y a quand même des enseignements qui nous permettraient de mieux vivre si nous nous appliquions à faire chacun ce que Dieu nous demande. Les femmes, elles doivent avoir un esprit doux et paisible devant Dieu. Ça amène la bénédiction dans un foyer. Voilà à quoi on reconnaît une femme en bonne santé. Elle a un esprit doux et paisible. Elle a une chose à dire, elle va le dire. Peut-être même des fois avec sérieux. Mais je veux dire, cette douceur doit sortir quelque part. Mais par contre, quand on est à l'église, on doit ensemble s'unir et combattre le bon combat. Nos réunions de prière le mardi soir devraient être aussi remplies que le dimanche matin. Parce qu'on est unis dans le même esprit. Tout ça, on en reparlera dans le cadre du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit? Eh bien ça en fait partie. Vous pouvez dire, mais monsieur Gault, là on n'a rien vu du baptême du Saint-Esprit. Mais moi je peux vous dire qu'un esprit en bonne santé amène l'onction de Dieu sur l'Église. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Alors, laissons-nous inonder, appliquons-nous, fortifions-nous, faisons des progrès. Alors je termine avec cette question. Depuis votre conversion, avez-vous fait des progrès avec le Seigneur? Soyez sérieux devant Dieu. Répondez au Seigneur. Si vous avez besoin d'en parler avec moi, je peux, c'est quand même mon travail de pasteur. Mais solennellement, êtes-vous converti depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 50 ans? Pouvez-vous répondre avec simplicité? Oui. Oui, j'ai fait des progrès. Non, j'en ai pas fait. J'en ai honte. C'est bien d'avoir honte. C'est bien. C'est écrit dans la Bible, ayez honte et rougissez. Il vaut mieux avoir honte ici-bas qu'avoir honte là-haut. Croyez-moi, quand Dieu nous demande d'avoir honte ici-bas, ce n'est pas pour nous fatiguer. Si Dieu nous demande d'avoir honte ici-bas, c'est pour prendre une résolution. Oui, j'ai honte. Ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de progrès. Combien j'ai honte? Je n'ai pas entretenu mon esprit. Cette semaine, on va corriger ça. Et vous prierez pour moi, parce que je pense que l'enseignement peut contribuer à ce qu'une église fasse des progrès. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous priez pour moi? Tous les jours? Je veux savoir si vous priez pour moi tous les jours. Ce culte ne s'achèvera pas sans que vous ayez signé un papier comme quoi vous vous engagez à prier 3 heures par jour pour moi. Je dis, vous avez compris quand même. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous rendez compte? Si vous priez pour moi, si Dieu m'inspire, si j'apporte la pensée de Dieu, vous vous rendez compte si de votre côté, votre esprit est en bonne santé, si ces choses-là, vous les prenez à cœur, j'espère qu'elles ne vont pas s'envoler dans 5 minutes au coin de la rue. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, oui, on va avoir un esprit en bonne santé? On va aller dans le baptême du Saint-Esprit. On va aller dans cette immersion de l'Esprit. On va faire des progrès. Le Seigneur, il n'est pas là pour vous assommer. Le Seigneur, il est là pour dire, oui, c'est pas bien, mais je suis là pour t'aider. Je te tends la main. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait rechanter pour terminer ce cantique? Homme de foi, lève-toi. On le rechante? Brice, vous voulez? Ou alors, je vais le faire chanter.